C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Jour 2. De la commission, parce que...
Il y a vraiment une grosse grippe, notre
Oui, lit, oui, oui, ça a l'air. Je pense qu'il va être là demain, mais il est encore KO. Et donc, nous allons procéder ce matin avec le premier sujet. On sait qu'il y a des leaders des milieux environnementaux qui ont demandé qu'il y ait un débat des chefs exclusivement sur la question des changements climatiques. François Legault, le premier ministre, a dit « Non, j'irai pas là ». Est-ce que ça peut nuire à la CAQ, Nathalie?
Bien, comme dirait notre ami Luc Aubin-Boswell, lorsque j'ai vu la nouvelle, j'ai pensé à lui. Luc, hein, c'est la cause, les dossiers environnementaux, on sait à quel point ça le touche. En fait, je ne crois pas que cette décision va nuire à la CAQ dans l'urne. Par contre, c'est une décision, selon moi, qui est mal avisée et qui vient renforcer la perception que la CAQ se fout de l'environnement. En fait, le dossier de l'environnement à la CAQ, là, on sent pas en fait qu'il y a beaucoup d'atomes crochus entre les enjeux touchant l'environnement et les prises de position qu'a pris la CAQ. En fait, je dirais même à la limite, Paul, on pourrait même, je pense, conclure qu'à la CAQ, on est inconfortable, on est mal à l'aise de parler des dossiers environnementaux. Le bureau du premier ministre a probablement fait le calcul qu'être invité à participer à un débat organisé par les groupes environnementaux, c'était risqué. Probablement qu'ils ont fait ce calcul en disant « Ah, le terrain peut être miné ». Mais on ne demande pas à la CAQ d'être le parti vert. Là. Ce qu'on demande à la CAQ, simplement, c'est d'être de son temps. Hein? C'est d'être un parti politique qui est capable, sans complexe aucun, d'expliquer sa vision des choses, d'expliquer son programme, parce qu'ils ont un programme en environnement. Oui, ils ont un programme en environnement. Et lorsque j'ai vu la nouvelle, je me suis dit, ben où est passé le François Legault, tout de vert vêtu, rappelons-nous, lorsqu'il est allé tel un missionnaire des temps modernes à la dernière COP26 à Glasgow. Écoute, je me souviens très bien, là, il était parti là, le torse gonflé, et il a déclaré, je cite, il voulait aller, en fait, convaincre les chefs d'État. Il voulait mettre de la pression sur les chefs d'État, tous les chefs d'État de la planète. Et lui, il a déclaré également faire de la politique sans se préoccuper des changements climatiques. Ça n'a pas de bon sens. C'est comme si on oubliait le plus gros défi qu'on a. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où, effectivement, François Legault, puis ça, ça s'est passé, là, c'était l'automne dernier, ça fait en novembre dernier, ça fait pas si longtemps. Comment se fait-il qu'aujourd'hui on sent la CAQ si inconfortable? Est-ce que c'est parce que le premier ministre ne voulait pas se retrouver sur la défensive, faisant l'objet de tous les tirs groupés de la part des autres chefs de parti? Parce que ce dossier-là, le dossier environnement, c'est le gros caillou dans la chaussure du gouvernement. Là. On sent pas effectivement qu'ils sont hyper à l'aise. Ils sont beaucoup sur la défensive. Alors moi, je trouve ça triste parce que c'est un dossier qui préoccupe les citoyens. Tu sais, de toutes les générations, on est touché d'une façon ou d'une autre par les défis environnementaux. La planète brûle et là, la CAQ, elle, on la sent non seulement inconfortable, on sent pas qu'il y a beaucoup de conviction à parler d'environnement. Je sais pas ce que tu en penses de ton côté.
Eh bien, moi, je le prends différemment. C'est-à-dire que je dirais que la dernière chose dont on a besoin, c'est un débat sur les changements climatiques. Et je vais te le dire pourquoi.
Ouais.
Parce que Philippe Couillard est devenu vert à Paris. Je me souviens de son retour, il avait été transformé.
Le géant vert.
Bien là, c'était incroyable. Puis là, on a un plan, puis ça va être extraordinaire. Justin Trudeau nous a planté des arbres, nous a fait des promesses. Puis M. Legault est arrivé avec son plan, son ministre Benoît Charest. Et à chaque fois, tu te retrouves avec la conclusion, pas la mienne, la commissaire au développement durable, vérificateur général, qui arrive et dit, ben finalement, ce qu'ils vous ont promis, ce qu'ils vous ont dit, c'est pas arrivé. Alors, demain matin, tu organises un débat. Puis je dis pas que Legault aurait pas dû y aller, là, mais ce que je dis, c'est que, écoutez ce débat-là pour me faire dire quoi? Des promesses qui tiennent jamais, des engagements irréalistes, et là, je parle pas juste du gouvernement, que Québec solidaire puis les partis d'opposition, ils peuvent très bien se pointer puis dire « Voici, nous autres, on va faire ça ». Est-ce que je vais les croire? J'ai tendance à te dire non.
Ouais, ben il y a une différence entre est-ce que je vais les croire ou non et la pertinence d'en débattre. Remarque que si, parce que c'est une première, hein, ce serait une première si tous les chefs de parti avaient accepté de débattre sur, dans le cadre d'un débat spécifiquement dédié aux enjeux touchant l'environnement. Bon, remarque que les groupes environnementaux ont leur agenda, eux aussi, on s'entend, ils font pas ça de manière désintéressée. Ce qu'ils veulent, évidemment, c'est pousser tous les partis politiques dans les câbles pour en faire la priorité des priorités. Mais on sait, toi comme moi, que la priorité des priorités à la prochaine élection, ça va probablement être toutes les questions touchant le coût de la vie, l'inflation, les prix de l'essence, les prix en épicerie, etc., la menace d'une récession. Tout ça, ça va être, selon moi, le sujet numéro un, avec la santé probablement en numéro deux. Mais moi, ce que je dis, c'est comment on peut, Paul, continuer d'avancer si les partis politiques, en particulier le parti qui est au pouvoir, font, en fait, trouvent un prétexte ou des excuses pour ne pas en parler. Un exemple concret, tu vois, le ministre Benoît Charrette, là, a déposé son projet pour augmenter les redevances sur l'eau. Ça, c'est un scandale en soi, on s'entend.
Ouais.
Les chiffres parlent d'eux-mêmes, tu vois, on est l'endroit au Canada, par rapport à l'Ontario, par exemple, on est l'endroit où on vend notre eau pour des peanuts. Là. Ça nous a rapporté pour 1 000 milliards de litres d'eau consommés par les grandes entreprises. Ça nous a rapporté 3 millions en redevances. C'est une joke vraiment incroyable. Alors là, le ministre arrive à la toute dernière minute. On peut questionner le fait qu'il ait décidé effectivement de déposer ça à la toute fin de la session parlementaire. Mais en même temps, il faut poser des gestes effectivement pour éviter que nos ressources soient dilapidé. Autre exemple concret qui fait en sorte que tu dis, attends une minute, là, on peut légitimement se poser des questions. Le bureau d'enquête Journal de Montréal a révélé que les grands projets du ministère des Transports, que ce soit des projets comme Turcot dans le futur, ne seront plus soumis à des exigences liées à la carboneutralité sur les chantiers. On a planté, on veut planter 50 milliards pour atteindre la carboneutralité avec le projet de Turcot.
Ouais,
on va prendre 100 ans de les planter, là, mais tu vois. Je me dis, on peut pas faire l'économie de moyens lorsque le
mais
plus
moi,
grand
je veux
défi
des
auquel
moyens,
on a relevé,
je veux pas
ça.
Un débat, parce qu'on sait ce qu'il faut faire, c'est juste qu'on veut pas le faire. C'est-à-dire que, écoute, pour échanger depuis longtemps avec Luc, mais avec d'autres aussi, là, l'idée, c'est même pas qui a la meilleure idée. L'idée, c'est de découvrir qui veut le faire. C'est sûr que la CAQ, là, tu sens pas une volonté à être préoccupé par ça. Le Parti libéral, en parole, oui. Dans les faits, quand ils sont au pouvoir, pas beaucoup. T'sais, Québec solidaire, c'est relativement facile. Puis Éric Duhaime, ça doit être le laisser-faire environnemental. Est-ce que de m'asseoir et regarder un débat d'une heure là-dessus va m'aider? Pense pas me faire une idée.
Oui, mais moi, je dis au contraire. Tu parles du Parti conservateur du Québec. Qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre pour les questions touchant l'environnement? Il me semble que c'est d'intérêt public, ça, de le savoir.
Je te dis pas que c'est pas d'intérêt public, mais est-ce que... Sérieusement, moi, je suis un peu tanné des discours, puis surtout des discours qui font que il y a rien qui change. Puis, tu sais, puis moi, je suis pas comment je te dirais, un anxio écolo, là. Tu sais, je suis quelqu'un qui dit, regarde, si tu prends pas...
Toi, t'es un pragmatique. Paul.
Ben oui, un peu. Puis je me dis, puis c'est M. Bourg-Douranos qui a dit deux choses. La première, tu pourras pas renverser la tendance. Donc, faut que tu prépares l'adaptation au changement climatique. Comment les îles de la Madeleine vont s'adapter? Comment Montréal va s'adapter? Tu sais, je regarde la Colombie-Britannique qui vient d'annoncer qu'ils mettent en place un système d'alerte comme Amber pour les vagues de chaleur prévues cet été. 600 morts, rapport du coroner aujourd'hui. Ben moi, je suis plus dans ce mode-là. Tu sais, parce que quand même que tu me dirais, on va convaincre les Québécois de pas aller s'établir trop loin puis d'acheter des véhicules plus petits. Oui. Mais c'est comme la fenêtre est passée. Alors... Et je trouve que c'est facile pour des partis d'opposition d'attaquer le gouvernement quand, depuis 10, 15, 20, 25, 30 ans, on a refusé de prendre des mesures. Puis, tu sais, c'est pas de blâmer les autres, là. Puis, à chaque fois que je dis ça, je reçois des courriels en disant « Oui, mais que faites-vous des Indes? Que faites-vous de la Chine? »
Oui, oui, absolument.
Tu sais, je comprends, là. Mais c'est pour ça qu'un débat, ça fait plaisir à un lobby, ça fait plaisir à l'opposition, mais c'est ce que j'en pense humblement.
Oui, effectivement. Votre opinion est fort intéressante, Monsieur Arcan. Là où je te suis, c'est qu'effectivement, les promesses se suivent, se répètent, puis effectivement, il se passe pas grand-chose. Mais en même temps, ce que ton plaidoyer démontre ce matin, c'est que l'environnement demeure un enjeu, en fait, non partisan, pourrait devenir un enjeu non partisan. En fait, pourquoi pas faire
Écoute, Nathalie,
avec l'environnement?
Comme a dit un auditeur l'autre jour, c'est tellement grave et c'est tellement important qu'il faudrait comme une espèce de consensus, si on veut, comme l'aide médicale à mourir.
Ben, parce que écoute, la... tu m'enlèves les paroles. Bon, okay. Oui, c'est ce que j'allais dire.
La planète se meurt, fait qu'on peut-tu s'asseoir ensemble pour voir ce qu'on peut faire?
Ben, pourquoi pas, en fait, pourquoi pas? Là, ça deviendrait intéressant, mais nous, comme électeurs, on pourrait le demander de la part aux élus qui sont devant nos partis politiques. Ben, entendez-vous, là, faites quelque chose, installez-vous autour d'une même table, puis entendez-vous sur des moyens les plus réalistes à mettre en œuvre pour qu'on puisse effectivement, que le Québec puisse tirer son épingle du jeu, parce que, tu vois, quand je dis ça fera pas de différence dans l'urne, là. Mais au quotidien, là, fin sondage, là, les gens, il y a une majorité de Québécois qui sont préoccupés par ces enjeux-là, qui ont eux-mêmes assumé déjà des responsabilités. Ils vont rouler en voiture électrique, ils compostent, ils recyclent, il y en a qui ont des comportements exemplaires. Mais on dirait que ça, c'est difficile de se traduire dans des politiques publiques, dans des engagements crédibles de la part des différents partis politiques.
Au retour de la pause, est-ce qu'on doit mettre notre nez dans les activités sur les réseaux sociaux de nos ados, genre TikTok, Instagram?
La commission Normando-Ferrandaise.
Bon, on a vu ces histoires de défis sur les réseaux sociaux. On peut penser à TikTok, là, des jeunes filles qui se font maigrir d'une façon maladive, là, un cas d'anorexie. Et c'est comme une compétition. Et ça amène des réflexions, pas juste cet exemple-là, il y en a plusieurs. Et la question, c'est est-ce que les parents doivent se mêler des activités de leurs jeunes sur les réseaux sociaux?
Bien, tout d'abord, quel drôle de bébite les réseaux sociaux. Moi, j'ai envie de te dire, pauvres parents et pauvres enfants, c'est plus facile à dire qu'à faire le contrôle parental. Moi, j'ai dit, quel drôle de bébite, parce que moi, personnellement, j'ai une relation assez trouble avec les réseaux sociaux. En fait, je suis pas très réseaux sociaux dans la vie. Je dois déclarer mon intérêt pour ce segment ce matin. Je disais hier le texte d'Alain McKenna dans la presse, a peut-être vu ça, une drogue dure nommée TikTok.
Ouais.
Ils sont tellement vicieux, là, toutes ces compagnies là qui développent des plateformes, qui s'organisent pour développer des moyens d'augmenter la dépendance des utilisateurs à leur plateforme. En fait, Alain McKenna compare les TikTok, les Instagram de ce monde à une dépendance qui est comparable à celle de l'alcool ou de certaines drogues. Qu'est-ce qu'on a fait un jour avec la cigarette lorsqu'on a découvert que les compagnies mettaient des additifs, des ingrédients qui effectivement contribuaient à développer une dépendance? Bon, on les a poursuivis devant les tribunaux, puis ils ont dû changer leur recette. Moi, je pense qu'on est rendu là. Je trouve ça scandaleux de savoir que ces compagnies-là s'auto-régulent, en fait, parce que quand tu regardes les règles de TikTok, ils ont ce qu'ils appellent des règles communautaires. Tu lis ça, ben oui, c'est bien beau. Parfois, ils suppriment effectivement des challenges ou des défis qui sont risqués, qui posent des problèmes. Mais j'ai l'impression qu'ils le font avec parcimonie. Et ça crée des situations absolument épouvantables. D'ailleurs, je me suis dit, qui invente ça, ces défis de débiles, là? Écoute, ça n'a pas de bon sens. Faut dire les choses telles qu'elles sont, là. Toi, tu parlais du défi, là, les jeunes filles qui sont maigries. Il y a le défi du foulard. Je sais pas si t'as entendu parler de ça. Le blackout challenge, là. Ben là, tu prends un foulard, tu te le mets dans le cou jusqu'à ce que tu perdes connaissance. Alors, ça a donné quoi? Ben, il y a une jeune Américaine de 10 ans, qui a perdu la vie. Et là, ce qu'on apprend, c'est que l'algorithme qui a permis de déterminer que le jeu du foulard était bien adapté et susceptible d'intéresser la petite en question qui s'appelait Nyla Anderson. Tu comprends bien que l'affaire s'est retrouvée en cours. D'ailleurs, je me suis dit, vivement le jour où TikTok va se retrouver en cours pour ce genre d'affaire-là. Bon, je sais pas comment l'histoire se règle, va se régler parce que, enfin, c'est quand même assez récent. Mais t'imagines, on a modifié, en fait, on a conçu un algorithme pour intéresser un profil XYZ des utilisateurs. Puis des utilisateurs, il y en a. TikTok, c'est 1 milliard d'utilisateurs. Moi, je trouve que c'est... Je sais que ça fait plusieurs années qu'on dit il faut que les gouvernements s'en mêlent, il faut trouver le moyen d'avoir des règles qui sont plus contraignantes pour tous ces réseaux sociaux parce qu'ils font la pluie puis le beau temps. Voyons donc, tes parents, toi, essaie là, comme parent là, de contrôler... Parce que en passant, TikTok, c'est interdit au moins de 13 ans. Mais essaie de contrôler ça.
Mais quand on aborde ces questions-là, à chaque fois, je reçois des courriels d'experts, notamment à l'UQAM, là, qui m'expliquent que c'est pas si pire que ça, que les jeunes sont capables de s'autodiscipliner.
Ben oui, toi.
Les jeunes démontrent qu'ils ont des pratiques de façon générale très saines, puis que c'est pas vrai que le web est plein de pédophiles qui courent après les enfants, puis que c'est pas vrai qu'ils ont des comportements débiles. Quand je reçois ça, là, mon réflexe est le suivant. Est-ce que Montréal demeure une ville sécuritaire? La réponse est oui. Mais est-ce qu'il y a une augmentation des crimes violents? La réponse est oui aussi. Fait que dans ce cas-là, les défis débiles, la présence de prédateurs, je comprends que c'est pas tout le monde. Je comprends que c'est pas, comme je dirais, une pandémie, mais c'est en augmentation pareil. Et donc, que de dire, mais vous savez, les jeunes sont capables de s'auto-protéger, oui, jusqu'au jour où, malheureusement, pour dans un contexte bien, bien spécial, ils se retrouvent dans le trouble. Puis je vais te donner juste un exemple pour illustrer ce que je veux dire. J'ai vu des cas de jeunes filles qui se sont fait séduire par le web, en fait, par quelqu'un là, qui se cachait, fausse identité sur le web. Mmh. Et cette personne-là les a amenés à partager des photos, d'abord un peu banales, puis après, de plus en plus intimes d'elles-mêmes. Et puis, à un moment donné, ces images-là sont partagées. Et là, c'est le drame.
Terrible. Ben,
puis
oui,
ces images-là disparaissent jamais, sont toujours potentiellement disponibles. Donc, tu dis, comme parent, je fais quoi? Puis moi, je dirais, au-delà de la menace potentielle qui existe sur le web, ça dépend beaucoup de la relation que vous avez avec vos enfants. C'est que vous ne pourrez pas tout contrôler. Vous ne pourrez pas... Tu sais, comme me disait quelqu'un, il y a trois facteurs. À quel âge tu donnes vraiment accès aux réseaux sociaux à ton kid? 12 ans? 13 ans? 11 ans? J'ai vu des parents donner accès à 9 ans.
Ah.
Oui, oui, oui. Même si tu n'as pas le droit, on s'arrange. Mmh. OK? Mmh. Deuxièmement, quelle sorte de relation? Si ton enfant est dans le trouble, puis qu'il, mettons qu'il a fait une connerie, là, puis qu'il n'aurait pas dû faire ça, il va-tu venir se confier ou il va se pousser, puis il va s'arranger pour pas que tu le saches, puis il va vivre ça tout seul avec tout ce que ça représente? Puis troisièmement, contrôler les appareils, c'est une chose, mais ils sont plus vite que nous autres en tech. Ça se peut qu'on soit dépassé.
D'une part, puis oublie pas l'effet du groupe, hein, parce que
aussi, aussi. Hein,
ton enfant à la maison, c'est une chose, mais ton enfant avec ses copains, copines de classe, c'est autre chose. Mais les exemples que tu viens de d'illustrer, là, ça démontre que le fardeau de la preuve, entre guillemets, là, repose non pas sur TikTok ou Instagram ou sur YouTube, mais sur les parents, les utilisateurs. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'eux, ils ont le beau jeu. Parce que là, ils nous présentent ça comme le monde des licornes. Tu sais, TikTok, wow, c'est le fun, on s'amuse, puis il y a des petites vidéos flyées, wow, tu sais. Mais en réalité, il y a quelque chose de plus, beaucoup plus pervers qui se cache derrière ça. Premièrement, les algorithmes qui sont conçus effectivement pour créer la dépendance. D'ailleurs, Alain McKenna, hier dans son texte, dit que là, TikTok est en train d'élaborer d'autres mécanismes, d'autres procédés pour augmenter cette dépendance. Il y a ça. Deuxièmement, la façon dont ils sont conçus, les réseaux. En fait, par exemple, tu fais un challenge, et là, ça crée des réactions, évidemment. Là, tu vas avoir des followers, des likes. Alors, l'utilisateur, l'enfant, mettons, qui a 11 ans, 12 ans, 13 ans, va se retrouver dans une dynamique où il est tapé dans une dynamique qu'il ne contrôlera jamais, puis pour laquelle, en fait, il va se laisser séduire. « Hey, wow, j'ai fait mon challenge, je vais avoir, je sais pas, moi, 10 000 followers, 20 000 likes. » Tu comprends?
Ouais, ouais, non,
alors,
mais...
je trouve que c'est pervers à l'os, c'est pervers à l'os. Puis là, nous autres, on regarde ça, blablabla. Hey, y a-tu quelqu'un qui peut mettre le point sur la table puis dire « enough is enough », là? C'est comme, ils contrôlent le monde, les réseaux sociaux. Écoute, c'est Meta avec Facebook, c'est Instagram, c'est YouTube, c'est TikTok, ils contrôlent le monde, Paul.
Bien, c'est sûr que si tu demandes à des entreprises de s'autodiscipliner, je veux dire...
Mais
c'est comme... Moi, je crois pas à ça. Ça fait longtemps que je crois pas à ça. C'est-à-dire que tant et aussi longtemps que tu t'imposes pas, puis on le voit avec Facebook, puis on voit avec d'autres plateformes. En fait, ils sont au-dessus des gouvernements. Ils regardent de haut en général, puis ils disent « Ah ouais, tu veux me faire ça? »
Ben, un milliard d'utilisateurs juste TikTok. Facebook, c'est quoi? 2,5 milliards d'utilisateurs. Tu connais-tu un gouvernement qui a sous sa gouverne autant de citoyens? Non,
non.
Écoute, puis ils sont capables du meilleur et du pire. C'est ça qui est terrible, parce qu'ils jouent toujours sur les deux tableaux. Ah, moi, je te dis, là, c'est... Non, je trouve ça... Écoute, c'est... En fait, la nouvelle façon de contrôler... Les gens, là, disent, le respect de la vie privée, gnagnagna. Non, vous avez pas compris que votre vie, maintenant, elle est contrôlée par tous ces réseaux sociaux. Puis je pense qu'il faut résister, mon cher Paul, résister à l'appel des réseaux sociaux ou à tout le moins faire un usage modéré.
Merci.
C'est un nouveau scandale!
Lequel?
Monsieur le Président, est-ce qu'il existe un vaccin contre l'incompétence
Ça nous prenait ça
pour
partir.
Ça nous fait du bien. Oui, exactement. Ça nous fait du bien ce matin. Merci.
À plus. Bye.
À plus.
C'est 23.